Et je remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette possibilité d'étudier ensemble et je vous remercie à vous tous d'être là présents fidèlement à cette étude qui est une étude qui est nécessaire, pas seulement pour augmenter nos connaissances en Torah, mais c'est une étude qui est beaucoup plus effective concernant même la Géoula, la délivrance finale du peuple d'Israël et du monde entier. Je dis cela parce qu'il y a un langage qui correspond à des périodes de l'histoire. Et le langage qui correspond à notre période de l'histoire, qui est une période qui clôture l'histoire humaine, car le monde a été créé pour 6000 ans, comme il est dit dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin au chapitre 11. Étant donné que le monde a été créé pour 6000 ans, nous sommes à la veille de la clôture de cette étape de la création, et c'est cette Torah qui a un langage nécessaire et suffisant pour justement accompagner cette clôture de cette phase de l'histoire. Nous appelons cela donc la Torah de la Kabbalah, mais c'est en réalité la Torah de la terre d'Israël, une Torah qui associe en fait la matière à l'esprit de l'infini. Alors, bien entendu, c'est un texte, comme vous l'a dit tout à l'heure David, que j'écris au fur et à mesure des cours qui avancent, et j'ai profité là pour faire un petit résumé de ce que nous avons étudié pour les gens qui n'étaient pas encore avec nous avant, et ceux qui se sont associés à notre étude, Bezrat Hashem, qu'elle soit profitable pour nous, pour le monde entier, pour l'humanité et pour le cosmos. Torah Asod hi Torah Eretz Israël. La Torah des secrets, c'est la Torah de la terre d'Israël. Que veut dire le mot Sod que nous traduisons par secret? Eh bien, le mot Sod se traduit en hébreu par ensemble. Donc, c'est la Torah de l'ensemble. Ce n'est pas la Torah des détails, c'est la Torah d'une vision d'ensemble. Ça, c'est la Torah des secrets. Donc, à chaque fois qu'on vous demande, on vous pose la question, quel est le sens d'étudier la Torah des secrets? Eh bien, c'est tout simplement pour acquérir une vision d'ensemble dans la vie. Pas seulement dans la Torah, mais dans tout ce que nous faisons dans la vie, il ne faut pas seulement avoir une vision fractale au niveau des détails, il faut avoir aussi une vision qui est globale, qui prend en considération l'ensemble, le tout. Mais Dubar Besafa, donc il s'agit là d'un langage, d'une langue, d'une façon de parler, d'un concept, Hamat Ima la Nefesha Enoshut, qui correspond aujourd'hui à l'âme de l'humanité tout entière, Velazehut Shela Olam Bizman HaGeula, et à l'identité du monde au moment même de la délivrance, celle que nous sommes en train de vivre. Les gens qui pensaient que la délivrance était quelque chose de facile voient aujourd'hui, sont témoins aujourd'hui de la difficulté, de toutes les difficultés qu'incombe cette délivrance. Cela ressemble à un accouchement. Dans l'accouchement, il y a du sang, il y a des douleurs, il y a des cris, il y a des éléments qui nous paraissent à l'inverse de ce que nous nous attendions à voir. Tout est paradoxal. Eh bien, le monde est à l'envers, et exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est à l'envers, comme le bébé qui naît, qui va sortir avec la tête vers le bas. Et donc, il va falloir inverser tout ce processus à un moment donné, mais pour l'instant, le passage, l'accouchement, inverse toutes les notions sur lesquelles nous avons grandi. Donc, ne vous effrayez pas de voir la panique dans le monde et l'inversion de toutes ses forces. Ken.
À ce moment-là, est-ce que vous pouvez agrandir le texte arabe sur une seule page?
Je vais essayer de l'agrandir tout de suite. Merci de me l'avoir demandé.
Alors, en bas à gauche ou à droite de votre écran, il y a un plus 100%.
Il y a un plus 100%. Alors, je vais le prendre.
Voilà.
Est-ce que c'est bon comme ça?
Parfait.
OK. Merci beaucoup, David. Donc, on va commencer par une petite reprise de ce que nous avons déjà étudié. Habriya hi yetzia mina achdut akolelet el haribouy. La création, par définition en hébreu, dont la racine est bar, c'est-à-dire en dehors de, donc je vais l'écrire ici, deux lettres, bar, c'est en réalité ce qui définit la création du monde. En dehors de quoi? Eh bien, de l'unité divine qui est ici indiquée par la lettre Aleph. Donc vous voyez que la création, comme on dit Bereshit, bara. Bar Aleph, donc c'est la sortie de l'unité. Traduction avec nos mots, plus simple. Yetzia mina achdut hakolelet, c'est une sortie de l'unicité englobante, parfaite, absolue. El haribouy, vers la multiplicité. C'est-à-dire que si je sors du Aleph, donc Yetzia, je l'écris en même temps que vous. Min ha Aleph, dès que je sors de la lettre Aleph, vous comprenez bien que je me retrouve directement hi haot bet. Je suis déjà dans la lettre qui signifie le pluriel, c'est-à-dire la pluralité. C'est pourquoi la Torah va commencer par cette lettre-là, la lettre bet, car c'est une lettre qui a un lien avec la création elle-même et non pas avec le créateur, car le créateur, lui, on n'a aucune connaissance de son identité car elle est infinie. On a juste pris de connaissance avec sa création, donc avec son vouloir de partager, avec sa volonté de se montrer, de faire voir sa splendeur divine dans cette pluralité, dans ce pluriel. Donc toute la création est un acte qui sort de l'unité première, de l'unicité première, incompréhensible par nous, pour justement arriver à un monde qu'on peut connaître, car c'est notre monde, le monde du deux, le monde du pluriel, le monde binaire. Le monde qui prend en compte toi et moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Oroth Vekelim. Donc nous sommes dans un monde qui va mettre en place une pluralité et parfois même une dualité, dans le sens du mot duel. Car si tu ne sais pas vivre avec le pluriel, eh bien malheureusement, l'un va devoir tuer l'autre, comme dans un duel. Et étant donné que c'est difficile de retrouver l'unité de Dieu dans cette pluralité de la création, eh bien nous avons des exemples comme Caïn qui va tuer Hevel, car il n'arrive pas à vivre en prenant compte de quelqu'un d'autre. Et donc il y a ici quelque chose de primordial. Et donc, la sortie du Aleph pour arriver dans la lettre bête, eh bien nous voici dans notre monde. Notre monde est un bête. En hébreu, ça s'écrit comme baït. C'est une maison. Donc notre monde est un baït, est une maison. La maison de qui? Eh bien la maison qui est censée révéler le Aleph primordial. Donc le Aleph primordial va se révéler dans le bête de la création de la pluralité. Et si on arrive à faire cet exercice de révéler un tant soit peu des notions de cette unité divine dans notre monde de pluralité, eh bien, la lettre bête a rejoint la lettre Aleph. Donc nous avons la notion de Olam Haba. Voilà le Olam Haba. Le Olam Haba qui n'est pas le monde futur, mais qui est un monde où j'ai réussi à travers ma lettre bête de pluralité à retrouver un tout petit peu de ce Aleph. Et donc, si vous avez, vous, chacun d'entre nous, une part dans ce Olam HaBa, comme nous dit la Mishnah, Kol Israël yesh lahem chelek la Olam HaBa. Pourquoi Israël a une part dans ce monde, qui est le monde de l'unité, alors que nous sommes dans un monde de pluralité? Mais tout simplement, parce que ce que nous avons reçu en tant que peuple d'Israël nous arrive de l'unité divine. Voilà le grand secret de notre peuple. La Torah ne vient pas du monde de la pluralité. La Torah n'est pas née dans le monde de la pluralité. La Torah a été façonnée dans le monde de l'unité divine. Et elle descend dans le monde de la pluralité en s'habillant dans deux tables de loi. Donc l'unité s'habille dans le deux. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël a une part naturellement dans ce monde qui est de l'au-delà, qu'on appelle le Olam Haba. Pas parce qu'il a été champion de quelque chose, mais parce qu'il a été créé avec cette qualité de base, lui donnant la possibilité, ici-bas, dans le monde de la pluralité, de révéler l'unité. Et ça, c'est le don de la Torah. Donc nous avons reçu quelque chose de l'au-delà pour arriver à vivre dans le monde d'en bas avec des valeurs qui sont complètement d'un autre monde. Et donc nous sommes liés, que nous le voulions ou pas, à un monde supérieur d'éternité. Donc vous comprenez pourquoi Israël est éternel. Parce qu'il est sans arrêt en lien avec des valeurs qui lui viennent de l'éternité. La Torah, les mitzvot. Donc à chaque fois que vous ouvrez un texte d'étude de la Torah, vous avez l'impression que vous êtes en train de rencontrer un texte, mais ce n'est qu'un prétexte. Vous êtes en train de vous relier à l'unité infinie qui est bien avant ce texte-là. Et le texte, ça va être tout simplement une réplique de ce qui existe dans ce monde d'infini. Et donc toute l'existence, Hametziut Kula, Hiklal Ha'anafim, on peut la considérer comme étant l'ensemble des branches. Les branches, ce n'est pas la graine. La graine se trouve chez lui, dans l'unité, béni soit-elle, divine. Mais les branches, eh bien, c'est notre monde. Donc tout ce que vous voyez dans votre monde, ce ne sont que des branches de cette unité première. Et donc toutes ces branches sont issues, yotzim, min hashoresh ha'echad, d'une seule et même racine. Une racine supérieure. Hayachid ve'ameyuchad, encore une fois, une racine que l'homme en bas n'est pas capable d'appréhender. Si quelqu'un un jour vient vous dire je connais Dieu, il y a un problème. Il est enfermé. Ce qu'il peut connaître, c'est comment l'infini traduit ses valeurs dans notre monde. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Da et Adonai Elohecha ve'avdehu. Tu ne peux pas connaître le tétragramme, mais tu peux connaître le tétragramme lorsqu'il s'habille dans un autre nom, celui qui s'habille dans ta nature binaire, Elohim. C'est pourquoi le nom Elohim est au pluriel, car il est dans le monde du pluriel, alors que le tétragramme, c'est le transcendant. Celui que tu ne peux pas appréhender. Et ce que nous devons faire, ce que nous allons répéter durant toutes nos fêtes, Be'ezrat Hashem, dans 2 semaines, Adonai Hu HaElohim. Voilà ce que nous allons répéter. C'est-à-dire, nous sommes là, à Kadosh Baruch Hu, pour témoigner de ton existence infinie, ici-bas, dans le monde binaire dans lequel nous sommes, dans le monde binaire que tu as créé. Megamat Abria, toute la création n'a qu'un seul but. C'est justement ce qu'on vient de dire, c'est d'amener, d'acheminer l'idée première, l'idéologie première qui est cachée à l'intérieur de cette unité, de cette unicité divine, El Giluyo est dévoiler cette force, cette idéologie, Be'olam haribouy, dans le monde de ce pluriel. Donc dans le monde binaire, dans le monde où le minimum c'est le 2. Et bien entendu, le maximum c'est des millions, des millions et des millions de détails. Ou Bechar, une fois que nous avons compris ce secret d'amener l'idée divine première et de l'appliquer dans notre monde binaire, nous sommes capables de connaître la racine de toutes les branches, c'est-à-dire la racine de notre monde. Notre monde, c'est le monde des branches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et petit à petit, quand je révèle la graine première qui était avant le déploiement de ces branches, eh bien, je peux comprendre la nature de l'arbre. Mais si je me perds dans les milliers de branches, je risque d'oublier la racine de cette branche. Quelle est la qualité spécifique de cet arbre? Et donc, je vais utiliser un texte de la Torah, « Le hat'im betam ha'pri ou bentam ha'etz ». Il faut qu'on arrive, nous, les humains, et spécifiquement ceux qui font partie du peuple d'Israël et ceux qui se joignent à nous pour ce travail-là, à faire ensemble, en sorte, pardon, que le fruit que nous mangeons de l'arbre ait la même teneur en goût que l'arbre lui-même. Rappelez-vous qu'à la création du monde, Dieu demande à la terre d'engendrer un arbre qui a la même teneur, qui a le même goût que le fruit qui va sortir de l'arbre. Dans la Torah, ça s'appelle Etz Peri, Osé Peri. C'est-à-dire que l'arbre, il est lui-même un fruit. Et non pas seulement comme aujourd'hui, c'est un arbre. Tu ne peux pas manger les branches de l'arbre, tu vas attendre que le fruit soit mûr. Alors toi, tu vas manger le fruit de l'arbre. Tu ne peux pas manger l'arbre. Alors que la Torah, elle nous demande de consommer l'arbre. Écoutez bien. Vous comprenez qu'il y a eu un décalage. Aujourd'hui, on ne prend que les fruits des choses. C'est-à-dire que même dans notre vie, on n'arrive pas à comprendre les sources des choses. À chaque fois, on s'arrête et on se bloque et on se coince dans les résultats qui nous apparaissent devant les yeux. Et on a du mal à comprendre à travers le résultat quelle était la cause. Voilà le monde après la faute. Et nous devons réparer cela et arriver à un monde qui répare la faute. Et à chaque fois que je mange quelque chose, je dois en réalité goûter la source de cette chose-là. À chaque fois que j'étudie la Torah, je dois connaître la source divine du texte que je suis en train d'étudier. Et non pas le texte comme une information qui m'arrive et je ne sais pas du tout quelle est la racine, quelle est la source. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les sages nous disent que quand vous étudiez un livre de Kodesh, c'est très important de savoir l'auteur et d'apprendre la vie de l'auteur de ce livre. Justement pour vous relier à la source et non pas seulement au résultat obtenu par le texte que vous êtes en train d'étudier. Eh bien, mes chers amis, ça, c'est la Torah de la Kabbalah. C'est de faire en sorte, voilà, c'est en gras, de revenir à Etz Peri, à ce que l'arbre soit un fruit et non pas seulement un arbre qui donne des fruits. J'espère que c'est clair. Et les sages nous disent, Ta'am, je l'écris devant vous, a pris que le goût du fruit Ketaam haetz doit avoir le même goût que l'arbre d'où il provient. Là, nous sommes dans un monde de tikkun, dans un monde de réparation. Vous avez compris que c'est qu'une parabole et vous devez faire ça, nous devrions faire ça dans n'importe quel sujet de notre vie. À savoir, toujours, essayer de comprendre le sens profond du résultat que j'ai devant les yeux. Sinon, je vais ne m'affairer que sur les résultats finaux de ce que j'ai en face de moi, sans jamais comprendre et entendre le degré primordial, secret, intérieur, qui se cache bien avant le résultat qui apparaît devant tes yeux. Et maintenant, nous passons à une donnée nouvelle. Am Israël, le peuple d'Israël, Nivra Venotsar a été donc lui aussi créé et façonné, Imatruna Hasgulit, avec cette spécificité qui a été introduite à l'intérieur de lui, qui lui permet de faire quoi, ce peuple-là? Ayodat les saper qui s'est raconté et à Echad, l'un, Beolam Haribouï dans le monde du deux. Voilà, le peuple d'Israël a été doté d'une capacité de traduction simultanée de l'unité divine dans le monde binaire dans lequel nous sommes. Voilà ce que nous sommes venus faire. Et c'est pourquoi le prophète nous dit, je me suis créé un peuple, Amzu Yatsartili Tehilati Yesaperu. Ils sont capables, ce peuple-là est capable de mettre en détail ce que je suis, ce que je veux donner au monde. Où est-ce que je suis arrivé à cette traduction de mettre en détail? Eh bien, Yesaperu. Vous connaissez bien votre coiffeur, on l'appelle Sapar. Eh bien, quelqu'un qui raconte une histoire, c'est quelqu'un qui est capable de couper une idée en petits morceaux, comme le coiffeur. Eh bien, les sapers en hébreu, raconter, c'est comme couper les cheveux. Je ne sais pas si ça a un rapport avec les coiffeurs qui aiment beaucoup parler, avec ceux qui viennent se faire coiffer. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose où la conversation se révèle précisément chez ceux qui savent raconter. Et donc le peuple d'Israël est le raconteur de l'unité divine, comme s'il avait un appareil qui est capable de transformer un transformateur intérieur, de prendre l'idée divine et d'en faire une histoire humaine. Voilà ce pourquoi a été créé le peuple d'Israël. Et donc nous disons dans le fameux verset « Ashrei ha'am she'adonai Elohav » « Voici le peuple, heureux soit le peuple qui arrive à certifier quoi ?» Eh bien, les deux noms de Dieu, Adonai Elohav, Adonai Elohim. C'est-à-dire qu'il va prendre le transcendant et il va l'habiller dans l'immanent. et ça va vous donner ce nom-là. Donc à chaque fois que vous allez dire pendant Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Adonai Hu HaElohim, eh bien vous allez devoir voir cette combinaison-là. Et plus vous la mettez en face de vous, je vous l'écris en grand, c'est le tétragramme, vous voyez, Yud, Ke, Vav, Ke, et à l'intérieur, Elohim. Donc cet accouplement entre ces deux noms, c'est la transcendance divine dans l'immanence de la création. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, eh bien, on est venu faire ça, cette combinaison-là. Apprenez-la par cœur, dessinez-la, faites ce que vous voulez, mettez-la entre vos yeux, à l'entrée de votre maison. C'est ce que vous devez faire à chaque instant. Maintenant, je ne parle pas seulement de Torah. Si, par exemple, dans mon métier d'artiste peintre, je veux traduire une idée profonde en œuvre d'art, eh bien, ce lien-là entre ces deux noms, c'est ce qui va m'aider à faire ce travail. Car en réalité, je vais prendre une transcendance, quelque chose qui me dépasse, et en faire une immanence, à en faire quelque chose d'ici, en bas, au niveau de ma connaissance. Donc, Elohe Israël, le Dieu d'Israël, Houa Eloha ha universali, c'est le Dieu universel. Donc en réalité, nous ne sommes pas là pour baigner dans notre petit jus juif. Nous sommes là pour le bien de l'humanité tout entière, mes chers amis. Et l'humanité tout entière va s'abreuver, boire de ce qu'Israël a à lui donner. Et Israël a beaucoup à donner à l'humanité. D'ailleurs, Bli metziuto shel am Israël babria. Imaginez un monde sans le peuple d'Israël à l'intérieur de cette création. Eh bien, haolam hayanish armenu tak mishorsho. Le monde serait resté déconnecté de sa source. Ad kedei mitato, jusqu'à son extinction et sa mort. Et donc en réalité, la vitalité du monde, dans le sens premier, son degré de vie, c'est parce qu'il y a un canal secret qui fait sans arrêt descendre le flux du transcendant vers l'immanent. Et ce canal secret s'appelle Israël. Donc nous sommes le trait d'union entre la source de la vie et la création du monde. Et donc la source de la vie s'écoule à travers cette notion, ce concept et ce peuple qui s'appelle Israël. J'espère que c'est clair parce que c'est énorme. À tel point que si Israël ne reçoit pas cette parole divine, justement pour la diffuser au monde, comme au moment du don de la Torah, il n'y a pas marqué que seulement le peuple d'Israël serait éliminé de l'histoire. Il n'y a plus de monde. Le monde disparaîtrait. Parce qu'il n'y a aucune raison de cette création du monde, si ce n'est pas pour que le flux divin s'y déversent et remplissent le monde qui a été créé. J'espère que c'est clair parce que c'est énorme et c'est primordial. Limud Torah Tassod. Et maintenant, j'arrive à notre étude. On a déjà commencé. Vous comprenez qu'il s'agit de tout ça. Mais bien plus encore. Limud Torah Tassod, cette étude que nous vous proposons avec l'aide d'Hachem, et je répète, et ce n'est pas une façon de parler, en toute humilité. Et Dieu est témoin. Combien d'humilité il faut pour enseigner cette Torah? Eh bien, cette étude-là, Shayach la Moussag Israël, eh bien, cette étude appartient au concept Israël, bien avant le peuple d'Israël. Vous savez qu'il y a un concept qui s'appelle Israël. Ce concept, c'est un concept créé par Akadosh Baruch Hu, comme nous rappelle Rabbi Akiva dans une braïta, dans une Mishnah qu'il a écrite. Il est arrivé à cette connaissance, Rabbi Akiva, à Mechune Chaya. Il dit que Akadosh Baruch Hu a créé une force de vie qui est unique, Achat. Aomedet be'emtsa rakia, et qui se tient au centre même de la pensée divine qui s'appelle rakia, et dont toute la volonté ve'kol retzona chakuk al mitzra est gravée sur son front. C'est-à-dire que le front de cette identité de vie qui s'appelle Israël, c'est de faire une seule chose. Les kasher à Elionim, la Tartonim, de faire en sorte que les mondes supérieurs se révèlent dans le monde d'en bas. Et c'est pourquoi Rabbi Akiva nous dit Omedet be'emtsa rakia ve'omeret barechu et Adonai ha'mevorach. Traduction, cette forme de vie qui s'appelle Israël, encore une fois, bien avant le peuple, bien avant l'apparition du peuple, qui n'est apparu qu'à la sortie d'Égypte, il y a cette forme que Dieu a créée qui s'appelle Israël, qui va ultérieurement s'habiller dans des êtres humains et dans le peuple d'Israël. Eh bien, cette force de vie initiale, primordiale, que Dieu va créer, elle a une seule idée en tête. C'est gravé sur son front, parce que c'est sa seule idéologie de vie. Barichu et Adonai amevorach. Pas bénissez Dieu, comme vous traduisez en français, c'est une fausse traduction, mais reliez-vous à l'éternité. Barichu, ça vient du mot berech, qui veut dire être en relation, être relié. Et si on nous sommes reliés à cette identité divine, eh bien, mes chers amis, nous sommes divins sur terre. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est lié au degré qui dépasse l'entendement, qui dépasse le monde fini, qui dépasse les mesures étriquées de notre vie. Parce que tu reçois des messages qui viennent de l'au-delà. Vous comprenez ce qu'est le rôle d'Israël dans le monde. Grâce à cette Torah et ces mitzvot que le peuple d'Israël applique, en réalité, il fait quoi? Sans arrêt, il tisse un lien entre ce qui est au-delà de notre monde et ce qui est à l'intérieur de notre monde. Je pense sincèrement que c'est la chose la plus essentielle de la Torah et des mitzvot. C'est de nous maintenir en relation avec l'au-delà duquel cette Torah et ces mitzvot nous arrivent. Israël Ha'Elyon, donc ce degré-là, ce concept Israël supérieur, dont je viens de parler, qu'on appelle cette force de vie, Chaya, Atid Leitlabesh Ba'uma Be'etziat Mitzrayim, un jour va s'habiller dans le peuple à la sortie d'Égypte. Vehi Tamshich, et ce peuple d'Israël, cette nation cette fois-ci, c'est une notion qui est devenue une nation. Vous pouvez jouer avec les mots. La notion est devenue nation. Et cette nation va continuer ce mif'al Elohi, ce travail divin, à mardir la bria qui fait entrer dans la création tout entière et erke haboré les valeurs de l'infini, du créateur lui-même. Voilà le rôle d'Israël dans le monde. Et c'est la Torah des secrets qui nous enseigne ça. Et plus vous touchez à des degrés de cette Torah supérieure, Vous comprenez bien que vous êtes en train de vous relier à des mondes qui sont de plus en plus supérieurs. Am Israël Wa'ed, donc finalement, conclusion momentanée, nous sommes le témoin en tant que peuple. Nous sommes le témoin Hamme'id al-Gilou Yaboré qui témoigne de l'existence du Créateur et de son dévoilement, le dévoilement de sa volonté. Voilà, c'est pourquoi nous sommes nés, c'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous avons été créés. Étudier cela équivaut à étudier ce que tu es venu faire dans la vie. Ribonosh et l'Olam, c'est primordial. Tu peux étudier la Torah toute ta vie sans savoir pourquoi, juste parce qu'on m'a dit. Et là, je suis en train de t'expliquer en toute humilité quelle est la teneur de cette étude. Où est-ce que ça va t'amener? Ça te permet de faire le lien constant entre l'infini et le fini. Est-ce que tu te rends compte de cette force? Ça veut dire que tu es sans arrêt la fameuse échelle de Jacob. Puisque l'échelle de Jacob, elle était et en bas, et en haut, simultanément. Rosho magia hashamaima, alors que raglav mutsav arza. Donc nous sommes l'échelle de Yaakov Avinu. Et c'est cette échelle qui nous permet sans arrêt de faire le lien entre le haut et le bas. Dans quel sens? Eh bien, comme c'est écrit dans le verset, Malaché Elohim, Olim, Veyordim. Les anges montent et descendent. Ils montent pour voir les valeurs initiales, et descendent pour traduire ces valeurs dans notre monde binaire. OK? Alors, vous comprenez bien que notre monde vient d'un degré qui a donné naissance au binaire. Écoutez bien le mot en français binaire, et immédiatement vous allez faire le lien avec la bina. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que notre monde, le monde de la création, vient d'un degré, d'une sphère dans la Kabbalah qui s'appelle bina. Pourquoi on l'appelle bina? Parce qu'elle génère déjà la capacité de devenir deux. Alors que la sphère qui est avant elle, c'est la Chochma, elle est dans l'unité. Elle n'est pas encore dans le binaire. Et donc la Bina, comme la Bria, c'est déjà la capacité de sortir du 1 pour arriver dans le 2. Et ça va donner naissance au monde binaire que vous connaissez dans un langage francophone. Moralité, l'Imoud Asod, l'étude que nous vous proposons avec l'aide d'Hachem, Hu Hapnimi Beyoter, c'est l'étude la plus secrète, Miben Miktsorot HaTorah, de tout les exercices de style que la Torah nous offre. Vous savez qu'il y a 4 degrés de lecture. Eh bien là, nous sommes dans le 4e degré Be'ezrat Hashem. Et pourquoi ce ne serait pas de l'orgueil de vouloir toucher à ce degré? Pas du tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le demande. Car nous sommes, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, à la fin du processus. Et c'est maintenant qu'il faut sortir cette étude. Et c'est pourquoi la Chassidoute l'a commencé et le Baal Shem Tov Alav Shalom a compris ce secret pour nous le donner. Et c'est tout le secret de la Kabbalah. Et donc nous sommes invités à faire partie de ce club d'êtres de lumière qui vont devenir des associés du dévoilement de la lumière divine dans le monde. Et c'est pourquoi vous vous êtes inscrit. Vous avez été appelé à rentrer dans cette amouta de Orot et Kelim comme dans l'arche de Noach. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes rentré et que quelqu'un d'autre non, ou pas encore. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous associer et de devenir de plus en plus fort pour faire descendre cette lumière, parce que le monde est en train de mourir sans cette Torah. Le monde est en désespoir, il est en déprime et en dépression, et nous devons, Be'ezrat Hashem, en toute humilité, en utilisant cette connaissance qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, qui est donc une connaissance cosmique, une connaissance qui fait partie de toute l'humanité, et pas seulement du peuple d'Israël, nous sommes là pour révéler cette lumière et être associés à la libération de ce monde. Et donc ça permet, mais afcher la lomed, ça va permettre à l'étudiant de cette Torah, lirot et achaim beharmonia, de voir la vie d'une manière entière, en harmonie. Pas seulement des détails qui sont collés les uns aux autres, mais quelque chose qui est unitaire, qui est metziut achat, une seule entité, kolelet, qui est une seule, ba'alat shoresh echad ou megama achat, avec une seule racine et un seul but. Comprenez que si vous voyez votre vie comme un être humain, imaginez-vous que votre vie, que le monde dans lequel nous sommes, c'est un être humain. Mais il est à la grandeur de tous les cosmos, de tout ce que vous connaîtrez, de toutes les galaxies. Eh bien, vous voyez les milliards de milliards de milliards de planètes qui se trouvent à l'intérieur de cet homme-là. Oui, mais c'est des détails de cet homme-là. Sinon, vous allez vous perdre dans cette infinité de galaxies, sans avoir ni un savoir d'où vous venez, ni un savoir où est-ce que vous devez arriver. Et ça, c'est l'inverse de cette Torah. Donc la Torah nous propose de voir le tout comme un tout, comme un seul être. Adam. C'est pourquoi le mot Adam en hébreu est équivalent à la Géoula. C'est la même valeur numérique. 45. La Géoula, c'est un chiffre secret. 45. Un jour, on ouvrira Be'ezrat Hashem dans le cadre de notre cours. Quel est ce secret-là? Pourquoi la Géoula, c'est un 45? Qu'est-ce que c'est que ce 45? Pour l'instant, sachez que c'est la même valeur que l'homme, c'est-à-dire c'est le même poids. Limud ze makne kelim le'avanat hashgachat ha'boré. Avec cette étude, nous allons apprendre, Be'ezrat Hashem, comment Akadosh Baruch Hu surveille sa propre création. Car il y a une surveillance. Dieu n'a pas créé le monde et l'a abandonné. Chas v'chalila. Il le surveille, et non seulement il le surveille, mais il le conduit. Anhagato, comme un chauffeur. Nahag. Vous voyez, vous avez tout dans la racine. Akadosh Baruch Hu conduit ce monde d'une manière globale, bichlal, ou bifrat, et toi en tant qu'individu, que tu t'appelles Véronique ou Eric. Kol bria, donc chaque création, kibla et ta Torah hamat'ima lezeuta. Bien, sachez, peut-être c'est une nouveauté pour vous, bien, chaque création, chaque créature a reçu la Torah qui correspond à son identité. Alors que vous croyez jusqu'à maintenant que ce n'est que le peuple juif qui a reçu la Torah. C'est vrai ou pas? Pas du tout. Le peuple juif a reçu une Torah qui correspond à sa nature, mais les autres nations et les autres créatures ont reçu d'autres Torot, Torah au pluriel, qui correspondent à leur nature. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a la Torah de l'oiseau. Et Dieu a donné la Torah de l'oiseau, devinez à qui? Aux oiseaux. Et l'oiseau est fidèle à sa Torah d'oiseau. Et il se comporte selon la Torah de l'oiseau. Magnifique. Et donc, nous avons quelque chose qui correspond à la Torah qui nous a été donnée. Dieu ne nous a pas balancé un texte venu du ciel. C'est du n'importe quoi. Dieu nous a donné en réalité, nous a révélé en quelque sorte ce que nous sommes à l'intérieur. Et tout ça, c'est inscrit à l'intérieur de notre ADN. Et c'est ce qu'on appelle la Torah. Donc la Torah, c'est notre essence. C'est notre lumière, c'est nous-mêmes. Et donc elle correspond au plus profond degré d'Israël. Et donc lorsque je reçois la Torah et que je m'efforce à l'étudier, eh bien oui, ma chère Caroline, j'étudie moi-même. Je m'étudie moi-même. Étudier la Torah, Anita, c'est étudier ce que tu es dans ta nature la plus profonde. Et c'est pourquoi les Chachamim nous disent, mais tu comprends pas que c'est le secret de ta vie? Je t'ai donné en fait le secret de ta vie. Je t'ai révélé ta propre identité. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Les gens qui croient que la Torah, c'est un élément étranger à moi, que Dieu, parce qu'il est nerveux, veut me donner de force pour me forcer à faire des lois qui ne correspondent pas à ce que je suis. Chas v'shalom, ça, c'est une catastrophe. C'est ne rien comprendre à l'histoire. Atorah she'akadosh baruchu natan lanu venoten lanu. La Torah que Dieu nous donne, c'est la Torah que nous sommes, c'est nous. Il te révèle qui tu es en tant que peuple et en tant qu'individu. C'est le secret de ta vie. Etz chaim hi lamachazikim ba. Pourquoi quand on sort le livre de la Torah, le parchemin cette fois-ci, ne pas confondre, hein, le parchemin c'est un recopiage, une copie de l'ADN. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si je vous pose la question sur quelle matière est écrite la Torah, ne me répondez surtout pas sur un parchemin. Ça, c'est le livre de la Torah. Sefer Torah. Mais là, je vous demande la Torah elle-même. Sur quelle matière elle est inscrite? Eh bien, vous devez répondre dans notre ADN. La Torah fait partie de moi. C'est ma structure. Quand je veux raconter la Torah, je la copie en forme de lettres et d'histoires dans un texte. Ça, c'est déjà le livre. Vous comprenez que si un sage d'Israël se balade avec un livre de Torah, vous devez embrasser qui? Le livre ou le sage? Eh bien, ceux qui ne comprennent rien vont embrasser le livre, alors que la Gemara, elle te dit, tu es un idiot. Tu devrais toucher le porteur de vie, la Torah qui marche, la Torah qui vit. Ça ne veut pas dire qu'il faut bafouer le livre, Chas v'shalom, parce qu'il est la réplique de cette structure intérieure sous la forme d'un texte historique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc lorsqu'on étudie la Torah, le texte à proprement dit, en réalité, il faut transformer ce texte à ta propre vie. C'est tout. Et quand tu lis, par exemple, ce Shabbat qui t'avoue la Haaretz, lorsque tu arrives sur la terre, de qui on parle? Vous croyez qu'on parle de ce que Moshe a dit à ceux qui étaient à son époque? Alors on n'a rien compris à la Torah. C'est vrai qu'il aura raconté ça, mais toi aujourd'hui, tu es à une autre époque, à 3500 années plus loin dans l'histoire. Alors quoi? Alors cette Torah, c'est quoi? C'est pour te raconter une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans? T'as rien compris. C'est toi qui t'avoies la haaretz lorsque toi, tu dois arriver sur le pays. Qu'Akadosh Baruch Hu t'a prévu pour ta structure. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné que la Torah correspond à notre structure, eh bien la Torah aussi correspond, cette structure, à un lieu géographique qui est la terre d'Israël. Il y a une structure de temps, temporelle, qui elle aussi, cette structure est liée. Ça s'appelle le Shabbat, ça s'appelle Rosh Hashanah, ça s'appelle les fêtes, Sukkot, Pesach, Shavuot. Vous croyez que c'est des inventions, des histoires pour fêter quelque chose, des événements? Rabotai, c'est parce que ce sont des temps qui correspondent à une partie profonde de mon être. Et ce que je dois faire dans mon être à Rosh Hashanah, je ne peux pas le faire à Sukkot. Mais si tu ne sais pas ce que c'est que Rosh Hashanah, si tu ne sais pas ce que c'est la terre d'Israël, si tu ne sais pas ce que c'est la Torah, et comment tu veux apprendre sur toi-même, tu ne te connais même pas. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné le moyen de nous connaître, de nous reconnaître. Ça, c'est la Torah des secrets, Rabotai. Et chaque fois que tu vas rencontrer un acteur dans la Torah, un des acteurs, on va prendre par exemple Moshe. Ne crois pas que c'est Moshe de la Bible, c'est le Moshe qui est à l'intérieur de toi, ma chère Simcha. C'est le Moshe qui est à l'intérieur de toi, Edouard. Si tu ne vois pas la Torah de cette manière, alors Moshe, c'est un vieillard qui a vécu à 3500 ans. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire moi aujourd'hui? HaTorah veHaMitzvot mekashrot benenu ben haRatzon haElyon. Et donc vous comprenez que la Torah et les mitzvot font le lien entre l'infini, la volonté de Dieu infini et nous. C'est énorme, énorme. À chaque instant, là nous sommes en train de réaliser une mitzvah. On est d'accord? On est en train d'étudier la Torah. Vous savez ce qu'on est en train de faire? Ce n'est pas seulement que vous êtes en train d'écouter un cours de Yoel. Là, on est en train de nous relier à l'infini. Ça veut dire qu'on est en train de recevoir une pluie qui vient de l'infini. On est en train de boire de l'infini. Ça veut dire qu'après le cours, je suis censé être plus infini que ce que j'étais avant le cours. Et donc de révéler des valeurs infinies que je n'étais pas capable de révéler avant. Parce que justement, je renouvelle le lien par mon étude, par mes mitzvot, par ma pensée. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. C'est ça que les sages nous demandent. Vois ce tétragramme devant toi. Pourquoi? Parce que c'est le transcendant. C'est lui qui te permet de rester lié aux valeurs de l'éternité. Car she'anachnu me'uganim be'etzem ba'meimad shu me'ever lechukei ha'metziut ha'tiv'it. Et donc nous sommes liés, malgré nous, pendant notre étude, pendant nos mitzvot, pendant nos pensées de sainteté, à une existence qui est au-delà de l'existence que tu connais ici, qui est étriquée, qui est fermée. Comprenez, Madame Nidam? Umekan, et c'est pourquoi Sod Nitzriuto shel Am Israël, c'est ça le secret de l'éternité d'Israël. L'éternité d'Israël vient parce qu'il est relié à l'éternité divine. C'est ça l'éternité d'Israël. Anachnu mizdakrim. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait, cette rencontre du troisième type? C'est même plus que le troisième type, là. C'est une rencontre incroyable, avec des valeurs qui dépassent l'entendement, avec des valeurs divines. Eh bien, ça nous purifie, ça nous nettoie, ça nous rend de plus en plus transparents. Nous sommes limpides de plus en plus. Nous sommes nous-mêmes de plus en plus. Alors, il fallait se débarrasser de certaines choses qui nous gênaient dans notre vie, c'est vrai. Alors, nous avons fait des choses que nous traduisons dans notre monde comme des phénomènes. Alors, j'ai fait ci et j'ai fait ça et j'ai fauté, j'ai ci et j'ai divorcé, je me suis remarié. Mais en réalité, vous comprenez que tout ça, c'est une conduite d'Akadosh Baruch Hu pour que tu arrives à retrouver la mesure étalon, la vraie, de toi. De toi! Alors ça arrive parfois très jeune, chez les grands kabbalistes, mais ça peut prendre des dizaines d'années pour la plupart d'entre nous et parfois quelques gilgoulim, quelques réincarnations. Jusqu'au moment où tu deviens complètement ouvert au grand ciel. Et donc cette rencontre, elle nous purifie. Cette rencontre avec la Torah et les mitzvot, c'est parce qu'elles nous font relier à quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà. Et c'est pourquoi nous dit la Mishnah, Ratzah Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël. C'est pour ça Dieu, quand il veut nettoyer Israël et lui donner un mérite, qu'est-ce qu'il fait? Irbalaim Torah ou mitzvot, il lui donne de plus en plus de Torah et de mitzvot, pas pour l'embêter, pas pour alourdir sa vie, pour lui permettre d'être sans arrêt en lien avec ce monde infini. Ribbono shel Olam, c'est une merveille. Zrimat haratzon haelyon. Donc vous comprenez que nous sommes finalement des canaux d'écoulement de la volonté divine à travers nous. Shalom kanal Joël, shalom kanal Raymond, shalom kalam kol echad, on est chacun un canal. Et plus le canal est propre, plus la volonté divine circule sans embêtement. Le tuyau n'est pas bouché. Il ne faut pas aller chercher des produits chimiques pour nettoyer le canal. Il est limpide. Je vais arrêter à ce degré-là pour l'instant aujourd'hui et on va passer aux questions avec votre permission.
Opa, Rav, alors il y a plein de questions dans le chat, Rav, est-ce que vous voulez les lire ou est-ce que vous voulez qu'on vous les lise?
Alors le chat, il est là, mais je ne sais pas où il a commencé, moi.
Alors attendez, déjà, Rav, est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran de votre texte?
Alors attends. Je suis sorti là complètement, non?
Non, on voit toujours votre texte.
Et moi, vous me voyez, moi?
On vous voit, mais on aimerait vous voir en entier. Attendez.
Ah, vous allez me voir en entier. Ça, c'est un grand secret, ça. Alors, je ne sais pas comment on fait ça.
Il y a marqué arrêtez le partage avant haut.
Et j'ai plus d'en haut, je suis sorti. Attends, arrêtez le partage. You are screen sharing. Donc, j'arrête.
Ouais.
Non, ça ne marche pas. J'appuie dessus, mais. Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà.
Super. Alors, Rab, je vous poserai question au fur et à mesure, mais il y a le rabbin Messan qui vous pose une question. Monsieur Messan, Mechavod.
Shalom, rabbin Messan, je suis très heureux de vous retrouver.
Oui, shalom, Kavod Rav, Bivakasha. Je suis. Déjà, je vous remercie beaucoup pour tous ces enseignements. Je veux. En fait, embrancher sur ce que vous avez dit, que l'histoire, enfin, ça dit que nous traduisons le degré divin dans l'histoire humaine. Je voudrais savoir si l'histoire où on a fait dormir, par exemple, Adam, pour sortir Ève, pour le mettre à sa face, la Nessira, nous pourrons le lire comme l'histoire d'Akadosh Baruch Hu, quand il se cache de nous, c'est quand on a fait dormir Adam, et quand il revient en face de nous, c'est d'Israël qui est Ève, Ava, qui se met en face. Et c'est ce que nous allons vivre, Bezat Hashem, selon le Rosh Hashanah. Est-ce qu'on pourrait faire cette histoire? Ce qui serait embêtant, c'est l'histoire de la faute.
Monsieur le rabbin Messan, c'est magnifique, c'est exactement le cours que j'ai prévu pour la semaine prochaine.
Ah, merci,
Kavod Rav. Ça veut dire que vous avez compris qu'il faut traduire ces notions à notre vie. Et c'est tout à fait ça. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu se cache, c'est parce que nous sommes dos à dos. Mais c'est il ça. Y a un découpage qui va nous remettre bientôt face à face avec la lumière divine. C'est exactement ça.
Arav, le monde de Hatzilut a-t-il été créé de la même manière que les autres mondes?
Le monde de Hatzilut a été aussi créé, bien entendu, car il y a un seul créateur et le créateur n'est pas lui-même le monde de Hatzilut. Donc il y a un monde qui s'appelle Hatzilut. À partir du moment où on dit « Olam », veut dire caché, ne'elam. Ça veut dire qu'il y a déjà un degré qui est en dehors. Donc on ne peut pas parler de Atzmuto Idbarach, de son essence infinie, béni soit-elle, dont aucune pensée ne peut saisir. Et nous, nous devons étudier le monde de Hatzilut. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire maintenant. La Torah de la Kabbalah, c'est l'étude du monde de Hatzilut. Tout à fait.
Amar, pouvez-vous définir définition de l'unicité de Dieu?
Non, je ne peux pas parce que je ne comprends rien. L'unicité de Dieu, c'est par définition une notion qui dépasse mon degré humain, qui est déjà dans un monde binaire. Donc je ne peux pas parler de son unicité. Je peux juste savoir qu'il y a une unité que je ne comprends pas, qui a créé la pluralité dans laquelle je me trouve, et j'essaie de comprendre sa volonté vis-à-vis de cette pluralité. C'est tout.
Rav, quelle est la différence entre l'étude de la Torah Tassod et la prophétie?
C'est justement la préparation à la prophétie qui va bientôt revenir dans le peuple d'Israël en grand. C'est avec cette étude qu'on devient prophète.
Qu'est-ce qui a été créé en premier, le concept de Adam ou le concept Israël?
Israël, c'est Adam. Atem kruim Adam, nous dit le prophète, et la Gemara nous précise. C'est vous, Israël, qui êtes appelé Adam. Donc, en réalité, le concept Israël, c'est la première pensée de Dieu, Alou b'machashava techila, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu va traduire par le mot Adam. Après, il y aura Bnei Ha-Adam, les fils de l'homme. Ça, c'est déjà un éloignement de l'essence première.
Alors, si c'est notre nature, notre ADN, pourquoi n'est-on pas tous pratiquants de Torah et Mitzvot?
Très bonne question, parce que nous sommes dans un monde d'oubli, et donc nous avons des écrans qui nous séparent de notre neshama, qui est la conscience de qui elle est, et de notre corps, qui lui perd cette conscience, et tout le travail de la neshama, c'est de réenseigner au corps, durant notre vie, de quel degré il est fait. Et si on n'arrive pas à faire ce travail-là, parce qu'on n'étudie pas assez, on a un libre arbitre, contrairement à tous les animaux et à toutes les autres créatures, eh bien, on peut rester dans cette ignorance totale de notre propre identité et existence.
Feu noir sur feu blanc, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Feu noir sur feu blanc?
Ouais, je...
Alors, feu noir sur feu blanc, c'est comme les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah, c'est de l'encre noire, seulement le Zohar a une force prophétique et d'une manière encore plus poétique de nous parler d'un feu noir sur un parchemin blanc. Mais dans un autre niveau, c'est l'inverse. C'est un texte blanc sur un fond noir. Le fond, c'est ce qu'on ne connaît pas. Les textes, c'est ce qu'on peut lire. Alors aujourd'hui, on lit des lettres. Mais est-ce qu'il arrivera un jour où on pourra lire le blanc entre les lettres? Oui.
Question de Catherine. Notre Torah peut-être peut-elle être assimilée à notre conscience?
J'aime pas l'assimilation, mais oui, la Torah peut être assimilée à notre conscience. C'est justement parce qu'elle doit pénétrer notre conscience et elle doit utiliser les éléments naturels que Dieu nous a donnés, c'est-à-dire l'intelligence, la force imaginative, tous les dons que nous avons dans notre corps, tous les sens que nous avons, doivent servir à la prise de conscience de cette divinité, de cette Torah qui est nous-mêmes, justement pour qu'on redevienne naturellement Torah. Je vais vous dire avec un mot très simple, avec une phrase très simple. Normalement, on ne devrait même plus ouvrir un livre d'études. On devrait être une Torah ambulante, qui sait tout, qui connaît tout, qui a la connaissance de tout. C'est ça la véritable Torah, ce n'est pas un texte. Abraham n'avait pas de texte. Abraham marchait Torah. Il vivait Torah. Il était lui-même une mitzvah. Comprenez la différence?
Question de Yves, et après je laisserai la parole, messieurs, dames, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main dans réaction en bas de votre écran ou alors écrire dans le chat. Question de Yves, que veut dire béni sois-tu? Comment peut-on bénir l'Éternel? Vous avez parlé de lien comme signification à la racine, Berur.
Baruch, tout à fait. Baruch Ata Hashem ne veut pas dire béni sois-tu l'Éternel. Ça veut dire que nous prenons conscience que nous sommes reliés, que l'Éternel, l'éternité est reliée à nous. Baruch, en hébreu, c'est Bet Resh Kaf, 2-2-2, 222. C'est-à-dire que nous avons fait le lien avec notre degré. Donc Baruch veut dire, comme en hébreu les Avrich, relié. Donc je me relie à l'infini. C'est tout.
Question de Abraham. Abraham, est-ce que vous voulez poser votre question? Il faut allumer votre micro. Alors, en attendant que vous arriviez, je vais passer la main à Youssef.
Nous avons un exemple d'un homme qui est arrivé au maximum de ce qu'un homme peut arriver, c'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il est presque au summum de ce qu'un homme puisse arriver. Et le Mashiach va finaliser tout ce processus. Ça va être un homme qui est fidèle à lui-même, à son essence la plus profonde. Ce qu'on appelle la Yechida.
Oui.
Abraham, votre question.
Oui, je voudrais poser la question au Rav Avram depuis la communauté noirie de Pointe-Noire au Congo. Les nations ont reçu leur Torah, mais on comprend que les Torah que les nations ont reçues les poussent à faire de plus en plus le mal. Or, c'est Elohim qui leur donne cette façon d'être.
Non, alors je me suis mal exprimé. Toutes les Torahs que les nations du monde ont reçues doivent passer obligatoirement par la Torah d'Israël.
C'est ça.
C'est tout. Et tant qu'il n'y a pas reconnaissance d'Israël en tant que receveur de la loi divine et de la souveraineté d'Israël dans ce monde, pas parce qu'il est meilleur que les autres, on a été créé comme ça, on n'y peut rien, eh bien aucune force divine ne peut atteindre. Le fait que vous soyez, vous, avec votre communauté reliée au peuple d'Israël, vous avez tout compris. C'est tout.
Merci beaucoup, Rav.
Question de Youssef.
Cette question avec votre permission, Rav. Au commencement, vous avez donné l'exemple de Kelly Oroth, le blanc et le noir. Oui. Quelle couleur est Kelly et quelle couleur est Oroth dans le blanc et le blanc?
Alors, la lumière dans notre monde, c'est le blanc et le kli, il est noir. Mais dans des mondes supérieurs, ce qui est blanc chez nous, on l'appelle blanc parce qu'on ne sait pas définir autre chose, mais ça peut devenir l'inverse. Donc, yotzer or ou borer chosher. Par exemple, la beria, qui est plus élevée que la yetzira, est considérée par nos sages comme le noir. Pas parce que c'est une couleur, parce que je ne comprends rien. Alors pour moi, c'est un grand noir, c'est tout.
Mon deuxième question, vous avez dit que pourtant Bina, c'est le monde binaire.
C'est le début. Pourtant, le début, c'est la racine du monde binaire. elle est encore dans l'unité, mais elle a déjà la connaissance de la suite qui va devenir binaire.
Et encore, nous avions étudié l'année passée que Bina était le Olam Haba aussi.
Tout à fait.
Donc, est-ce qu'on va, on va vivre dans le binaire, dans le Olam Haba, ou bien on va arriver à l'unité?
Non, tout à fait, dans le Olam Hazé. Quand vous allez comprendre que vous pouvez vivre ce monde d'unité tout en étant dans la pluralité, dans le binaire, vous êtes déjà dans le Olam Haba. Le Olam Haba, ce n'est pas un monde qui est après la mort. C'est un état de conscience que vous pouvez atteindre de votre vivant. Ce n'est pas la peine de mourir pour rencontrer Dieu.
Mais c'est quand on vit, on va vivre en dualité ou bien dans l'unité?
Non, pas en dualité, en pluralité. Duel, ça veut dire tuer. Mais quand vous vivez dans un monde de pluriel, vous êtes vous et votre femme. Mais vous avez découvert l'unité divine entre vous. Vous êtes déjà dans le Olam Haba.
Merci. Merci.
Question arabe de Simcha Maïsa Levi.
Je peux poser une question?
Alors, allez-y, et après ce sera Simcha. Non, c'est pas Simcha.
C'est à propos du terme Baruch. Et moi, j'ai compris Bar, ça veut dire dehors, se révéler. Et Rour, c'est-à-dire Kaf-Vav, c'est le tétragramme. Alors Vav. Peut-être que quand chaque fois
Kaf-Vav.
Qu'on
dit. Tout à fait.
Kaf-Vav, ça veut dire que chaque fois qu'on dit Baruch, est-ce que ça veut dire que. On lui demande la dourba tartonim de descendre,
exactement.
De se révéler, mikoach et la poêle.
Exactement, c'est sortir son kaf vav, son 26, pour nous le donner.
Exactement.
Comme un bar mitzvah, qui va devenir porteur de la mitzvah. Et là, bar devient fils de.
Yofi.
Timcha Bechavon.
Yoël, et merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire la phrase « c'est tout près de toi dans ta bouche ». Et aujourd'hui, j'ai reçu un éclairage avec votre cours quand vous dites qu'on on a accès à sa propre histoire.
Baruch HaShem, si je suis venu que pour ça, alors David, tu dois rester ici. Ça veut dire exactement ça. Ki karov elecha hadavar meod bepicha u bilvavcha la'asoto.
C'est tout. Voilà. Et ce sont des histoires plurielles en se collant à l'unité. Et on boit la source pour être nourri et on boit l'eau. On boit l'eau.
Tout à fait. Que vous soyez toujours comme votre prénom dans la simcha.
Arav, dernière question, Arav, quelle est la différence entre l'union entre Yud Kevavke et Elohim, comme vous l'avez expliqué magnifiquement, entre l'union entre Yud Kevavke et Adoshem?
Adoshem, je ne sais pas ce que ça veut dire.
C'est
une fabrication française, mais s'il veut parler, je ne sais pas qui pose la question du Shem Adni, du Shem Adnout. Alors là, oui, je peux comprendre. Alors, Elohim, c'est le début du pluriel et. C'est la fin aussi, ça peut malheureusement aller en cacahuète, devenir Elohim Acherim. Alors que Shem Adni, c'est quand je reconnais cette souveraineté et que je l'applique sur ma vie. Donc je dis Baruch Ata Adonai Lamdeni Chukecha. J'ai utilisé un verset, mais je l'ai complété pour ne pas dire le nom en vain. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai utilisé le nom que j'ai vu, qui est le tétragramme. Yudke Vavke, mais j'ai prononcé Aleph Dalet Nun Yud. Ça veut dire que j'ai pris sur moi le joug de cet infini et je le considère comme mon roi. Autrement dit, je veux que mes valeurs soient les siennes. C'est tout ce que nous sommes venus faire, Rosh Hashanah. C'est tout.
Alors, Rav, dernière question de la dernière question. Rav Shalom, lorsque vous parlez de la Torah, de l'oiseau, ça me fait penser au Perek Shira. On pourrait dire que si on étudie bien la Torah, on apprend à chanter notre propre chanson?
Tout à fait. Chacun de nous a sa propre chant, son propre chant à l'intérieur de lui. C'est le chant de sa Neshama. Et celui qui apprend son propre chant, eh bien, il devient prophète. C'est sa manière à lui de prophétiser, donc de révéler la valeur divine. Et jamais deux prophètes ne prophétisent de la même manière, parce que chacun d'entre nous a le chant qui correspond à son champ magnétique.
Rav Yoel, Toda Rabba, Shavua Tov.
Toda Rabba,
merci à tous. Toda Rabba, Toda Rabba.